La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Nous nous intéressons ce matin à l'Indonésie. 260 millions d'habitants répartis sur un archipel de plusieurs milliers d'îles et bientôt une nouvelle capitale.
Eh oui, je vous épargne la devinette, Guillaume. La capitale indonésienne, c'est Jakarta sur l'île de Java, mais ça va changer. C'est le président Joko Widodo qui l'a annoncé hier. Le pays va construire de toutes pièces une nouvelle capitale, cette fois sur l'île de Bornéo. Forcément, la nouvelle fait la une de tous les journaux d'Indonésie. D'autant que c'est une confirmation, c'est le quotidien en ligne Tempo qui nous le dit, ce déménagement de capitale, on en parle en Indonésie depuis des mois, voire même des années, en fait quasiment depuis la création de l'État indonésien il y a 74 ans, avec cette idée que la capitale actuelle, Jakarta, est le résultat de l'histoire coloniale et non un choix de l'Indonésie indépendante. Parmi les cinq raisons invoquées hier par le nouveau président, surnommé Jokowi, et reprises par Tempo, il y a la nécessité d'un rééquilibrage aussi bien démographique qu'économique. Jakarta, selon les mots du chef de l'État, est devenue un fardeau pour l'Indonésie, concentrant plus de la moitié de la population et aspirant l'essentiel de ses richesses à un endroit où la sécurité alimentaire des habitants est un défi permanent et qui se trouve en plus excentré, beaucoup trop à l'ouest par rapport au reste de l'archipel. D'où le projet confirmé hier donc pour achèvement prévu en 2024 de bâtir la future capitale plus à l'est sur la côte orientale de l'île de Bornéo. C'est là, détaille le Jakarta Post, que seront installées d'ici 5 ans donc les institutions politiques du pays. Jakarta devrait rester tout de même le centre névralgique du business indonésien.
Et parmi les 5 raisons de ce déménagement, Camille, il y en a une et pas des moindres qui concerne l'environnement.
Oui, c'est vrai. Et c'est celle qui retient d'ailleurs l'attention de la chaîne américaine CNN pour qui, si Jakarta est délaissée, eh bien c'est parce qu'en plus de se trouver sur un site très exposé aux menaces sismiques et volcaniques, la mégalopole est littéralement en train de s'affaisser, de s'enfoncer dans la mer de Java. Plus elle se développe ces dernières décennies, plus elle gagne du terrain sur les anciens marécages et sur des côtes fragiles, plus elle pompe aussi de l'eau sous terre pour couvrir les besoins de sa population pléthorique, et plus Jakarta voit son niveau se rapprocher dangereusement de celui de la mer. Le résultat, explique CNN, c'est une pollution catastrophique et des inondations de plus en plus fréquentes. Ajoutez à cela la montée des eaux prévues avec le réchauffement climatique et vous comprenez mieux pourquoi le pouvoir indonésien veut fuir Jakarta. L'entreprise est pharaonique, reconnaît le Wall Street Journal. Le coût du chantier est estimé à 30 milliards d'euros. C'est 19% du budget national selon les calculs de Tempo. Ce coût est donc très critiqué en Indonésie, tout comme les dégâts que la construction d'une nouvelle métropole va causé à Bornéo, car le territoire que se disputent déjà les promoteurs immobiliers pour cette future capitale est composé principalement de milliers d'hectares de forêts tropicales. Par les temps qui courent, c'est difficilement défendable, d'autant, explique un défenseur de la nature indonésien toujours dans Tempo, que Bornéo fait déjà face à une crise environnementale et sociale très grave, liée justement à la conversion des terres et des forêts au bénéfice de l'industrie, comprenez la déforestation galopante.
Et dans la presse indonésienne toujours, il y a un autre bouleversement géographique qui semble se dessiner.
Et ça concerne la situation cette fois sur l'île de Papouasie. La partie la plus à l'est est indépendante, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais la moitié occidentale fait bien partie de l'Indonésie. Or, nous dit le Jakarta Post, depuis une grosse semaine, cette région est secouée par une contestation sans précédent. La population du centre de l'île, d'ethnie papoue et de religion majoritairement protestante, se mobilise pour dénoncer le racisme et les discriminations dont elle est victime et qui sont infligées par les nouveaux habitants qui peuplent les côtes de l'île, pour la plupart venus d'ailleurs dans l'archipel et en général musulmans. Le racisme anti-papou en Papouasie occidentale, c'est l'éléphant dans la pièce, écrit encore le quotidien de la capitale pour dire à quel point cette population est méprisée, insultée, animalisée, violentée au quotidien, que ce soit par d'autres Indonésiens ou même par des représentants du pouvoir. D'ailleurs, ce sont des militaires que l'on voit infliger des sévices racistes à des papous sur les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux cet été et qui ont mis le feu aux poudres. Les autorités de Jakarta, pour tenter d'affaiblir cette mobilisation, ont coupé Internet en Papouasie depuis le milieu de la semaine dernière, mais ça n'a rien changé. Hier encore, des milliers de personnes, certaines en costume traditionnel, ont défilé dans les rues de plusieurs villes de l'île. L'envoyé spécial du Guardian sur place rapporte leur colère d'être traités comme des citoyens de seconde classe et la montée aussi des slogans autonomistes dans leur cortège. À tel point que cette situation en rappelle une autre à l'éditorialiste Cornelius Purba du Jakarta Post, celle du Timor oriental. Il y a deux décennies, quand le soulèvement de la population locale contre l'oppression du pouvoir central avait conduit là-bas à un référendum d'autodétermination, puis à l'indépendance de ce territoire indonésien du Timor oriental. La Papouasie occidentale n'en est toutefois pas là, les Papous ne sont pas encore passés à la lutte armée, mais la diversité dont l'Indonésie se vante ne doit pas être qu'un simple discours, c'est aussi une réalité à entretenir un peu comme de bonnes relations de famille, d'où cette prédiction de Cornelius Purba. S'il ne combat pas à la racine ce racisme d'État, le pouvoir indonésien pourrait bien se condamner lui-même à subir une nouvelle amputation douloureuse 20 ans après le Timor oriental.
Merci beaucoup Camille Magnard. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.